C'est le psaume 3. Et pendant que vous cherchez, petite question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation douloureuse et de savoir qu'au moins une partie du problème venait de vous? Je veux dire que vous avez été averti, vous saviez que c'était une décision qui n'est pas sage, que c'était une parole qui allait blesser quelqu'un. Vous saviez que cette dépense-là était imprudente et que cette habitude solitaire était dangereuse. Mais vous avez poursuivi, continué. Et maintenant, il faut vivre avec les conséquences de cela. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parler durement à son conjoint et désormais, il y a un froid qui s'installe dans la maison. Vous avez menti peut-être à un proche et là, la confiance est un petit peu brisée maintenant. Une relation d'amitié qu'on néglige et la personne s'éloigne de nous. On nourrit ou on entretient secrètement un péché caché et le péché commence maintenant à nous maîtriser. Vous voyez? Et dans ces moments-là, il n'y a pas que la souffrance qui nous tient. Il y a souvent aussi le regret. Vous voyez, le regret et la culpabilité. Et une phrase qui tourne dans nos têtes, c'est de ma faute, je n'ai que ce que je mérite. Mais si on est chrétien, à cette phrase de c'est ma faute, je n'ai que ce que je mérite, on pourrait rajouter aussi, Dieu doit être vraiment très fâché contre moi et il veut me punir. Ce qui m'arrive là, c'est parce que Dieu veut me punir. Et donc, je n'ai même plus le droit de demander de l'aide. Je dois souffrir jusqu'à ce que j'ai suffisamment payé ma peine. Oui. Ça me fait penser, et en pensant au psaume qu'on lit là, j'ai pensé à un ami avec qui on a mangé une fois. Et il n'était pas du tout habitué à manger épicé. Et il y avait un pot de piment. Alors moi, j'aime bien le piment, donc j'en ai mis pas mal dans mon assiette. Il a voulu essayer. C'était pas un truc écrit, attention, ça chauffe beaucoup. Enfin, ça chauffe beaucoup. Alors non, il s'est servi une bonne cuillère de piment. Il l'a mis dans son assiette et il a mangé directement. On lui a dit ne fais pas ça. Il a dit non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Et quand il a mangé, aïe, 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 aïe. Il n'a même pas mangé la moitié de son assiette. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ses lèvres ont commencé à gonfler. Son teint a changé. Sa couleur de peau a changé. Et on le sentait brûler à l'intérieur. Et il a dit, ça va, ça chauffe un petit peu, mais bon, ça va. Il n'osait pas demander un verre d'eau. Et vous savez pourquoi? Exactement. Parce qu'il a été prévenu. Parce qu'il assumait, il voulait assumer sa bêtise. Il a été prévenu et il vivait les conséquences d'une mauvaise décision qu'il avait prise. C'est une expérience qu'on peut connaître spirituellement aussi dans notre vie avec Dieu. On brûle intérieurement, mais on n'ose pas crier, on n'ose pas demander d'aide parce qu'on se dit, ce sont les conséquences de mes choix. Est-ce que Dieu peut vraiment m'aider dans cette situation? Et le psaume 3 que nous avons ce matin a été écrit par David, qui traverse une situation plus ou moins semblable à cet ami qui a mangé le piment. David souffre terriblement. Il est humilié, encerclé par des ennemis, obligé de fuir, de quitter Jérusalem alors qu'il est le roi. Mais aussi, il sait qu'une partie du désastre dans lequel il est liée à ses erreurs. Si vous avez trouvé le texte, je vais lire le psaume 3 qui s'affiche. Et donc, ma chérie, tu vas être bivocationnelle ce matin. Je vais faire les slides, s'il te plaît. Psaume 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Déjà, le titre est terrible. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. C'est la parole de Dieu. Et je vais prier. Seigneur notre Dieu, maintenant que nous nous plaçons devant ta parole, nous te demandons, Père, s'il te plaît, de nous parler, de te révéler à nous par ton esprit et par cette parole. S'il te plaît, Seigneur, que cette parole nous dise davantage sur ta grâce. Nous en dise un peu plus sur comment tu prends soin de l'homme pécheur qui revient à toi et de comment tu es capable de le restaurer. Et Seigneur, s'il se trouve parmi nous des personnes qui se retrouvent dans une partie de ce texte, Seigneur, s'il te plaît, secours-les comme tu secours le roi. Apporte-leur ton soutien comme tu donnes ton soutien au roi. Et renouvelle-les, restaure au nom de Jésus. Amen. La question qui traverse ce psaume est assez simple. Est-ce que je mérite encore le secours de Dieu après tout ce que j'ai fait? Et donc, je pense que c'est une question que David pourrait se poser. J'ai appelé la prédication coupable, mais pas abandonnée. Et donc, la question qui traverse tout le psaume, est-ce que je mérite encore le secours de Dieu malgré tout ce que j'ai fait? Et la réponse du psalmiste est assez claire. Le secours de Dieu n'a jamais reposé sur le mérite. Il repose essentiellement sur ce que Dieu est et pas sur ce que je fais ou sur ce que je ne fais pas. Ok? Je propose 3 points pour suivre ce texte. Premièrement, la détresse du roi. Deuxièmement, la foi du roi. Et troisièmement, le soutien de Dieu. Ok? Regardez les 2 premiers versets ou les 3 premiers versets selon vos versions, mais je vais lire. Psaume de David à l'occasion de la fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Avez-vous remarqué l'insistance sur le degré des difficultés? Je veux dire, au verset 2, il parle de ses ennemis qui sont nombreux. Il parle de la multitude qui se lève. Et même au verset 3, il dit « combien qui disent ?» Vous voyez, David ne décrit pas une petite frustration intérieure, mais bien au contraire, on a l'impression que tout se dresse contre lui. Il pourrait dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Tout est dressé contre lui à ce moment-ci. Son fils, une partie du peuple et même des responsables politiques et militaires et même certaines personnes qui avaient autrefois bénéficié de ses faveurs sont désormais tournées contre lui, lui ont tourné le dos. Et le titre du psaume nous dit que David fuit devant Absalom, son propre fils. Alors, il faut connaître cette histoire. Si vous voulez en savoir un peu plus, il faut lire dans 2 Samuel 12 et vous pourrez voir l'histoire. Et donc, David est assez écrasé parce que son propre fils a corrompu une partie du peuple, organisé une rébellion et s'est autoproclamé roi. Et donc, David est obligé de quitter Jérusalem. Vous vous rendez compte? David qui a battu Goliath, obligé de fuir devant un enfant qu'il a vu naître. Il part, il sort de la ville en pleurant, les pieds nus et la tête couverte. L'histoire est belle, il faut la lire dans 2 Samuel. Mais le poids de David est encore plus lourd parce qu'il sait que la crise dans laquelle il est, le tourment dans lequel il se trouve est en partie de sa faute. Tout le monde connaît l'histoire. David qui a volé la femme de Uri, qui était son soldat, et qui a fait tuer ce soldat-là. Et lorsqu'il est lorsque le prophète Nathan va le confronter, Dieu va lui annoncer que l'épée ne s'éloignerait pas de sa maison et que le malheur sortira de sa propre famille. Ok? Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous encourage de nouveau à aller la lire. 2 Samuel, chapitre 12. Et donc David ne peut pas dire « je suis une victime dans ce qui se passe ». Il souffre de ce qu'Absalom lui fait, mais il souffre aussi du poids de ses propres regrets, de ses propres que ses ennemis utilisent maintenant contre lui. Vous voyez ce qui est au verset 3 ? « Plus de salut pour lui auprès de Dieu ». Autrement dit, David, cette fois, Dieu ne te viendra pas en aide. Après ce que tu as fait, tu n'es plus en droit d'attendre quelque chose de Dieu. Et c'est d'ailleurs une voix qu'on entend assez souvent chez nous aussi, facilement. Vous savez, cette voix qui dit « Ah, t'es pas allé au culte dimanche dernier, bah, ça sert à rien d'y aller aujourd'hui. T'as pas lu ta Bible la veille, c'est pas la peine de lire aujourd'hui, ça changera rien. Ah, tu vois ce péché que tu as fait, ah bah regarde, et tu es condamné, y a pas, tu peux, voilà, Dieu n'a plus d'intérêt pour toi. » Cette voix qui dit « Dieu pardonne peut-être les autres, mais toi, tu es tombé tellement de fois dans ce même péché que c'est plus du tout la peine. » Vous voyez, cette voix-là que les ennemis de David disaient à David. Mais il faut pourtant remarquer la première parole de David. Regardez ce qu'il dit. « Ô Éternel !» Vous voyez, il ne fuit pas loin de Dieu, il fuit vers Dieu. Il n'attend pas d'avoir réparé sa vie avant de prier et de chercher Dieu. Il ne se cache pas dans un coin en disant « Je vais laisser le temps passer et je reviendrai plus tard. » Parce que le temps ne pardonne pas. Le temps n'a jamais pardonné personne. Et il crie à Dieu depuis le milieu du chaos qui a été causé par son propre péché. C'est la première bonne nouvelle que ce psaume nous annonce. On peut dire à Dieu que ça va mal. Même lorsqu'on a contribué au problème, vous voyez, on peut dire à Dieu que ça ne va pas. Pas besoin de se cacher, mais on peut dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je ne sais pas comment réparer tout ce que j'ai cassé. Imaginez un enfant à qui le père dit, ne cours pas, le sol est mouillé. Alors, c'est une expérience qui est effectivement déjà vécue ici. Surtout sur la terrasse, ne cours pas, c'est mouillé parce que je viens de verser l'eau. Et l'enfant court et tac, il tombe, il se blesse. Est-ce que le père dit, ok, tu restes là au sol et tu souffres jusqu'à ce que tu aies compris ta douleur, jusqu'à ce que tu aies expié ta faute? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce qu'il lui répond, je t'avais prévenu? Pas du tout. Le père ne dit pas que la désobéissance était une bonne chose. Mais il va vers l'enfant. Il fait quoi? S'il y a une blessure, il nettoie. Et il met un pansement. Et le nettoyage peut faire mal. Le nettoyage de la blessure peut faire mal. Il y aura peut-être une cicatrice derrière. Mais la douleur du nettoyage, ce n'est pas la vengeance du père. C'est le soin du père, au contraire. Et de la mère, bien évidemment. Et donc, ces premiers versets invitent celui qui est tombé après avoir désobéi, à ne pas minimiser sa faute ou à ne pas la rejeter sur d'autres personnes. Mais bien au contraire, comme David, ô Éternel, à ne pas fuir loin de Dieu, mais à fuir vers Dieu. Et donc après avoir regardé autour de lui, David regarde maintenant, et quand il regarde autour de lui, il voit quoi? Des ennemis, on les voit en nombre incalculable. Et maintenant, David va lever les yeux au-dessus de lui, et deux mots vont faire basculer le psaume. C'est dans les versets, c'est le deuxième point. La foi du roi, dans les versets 4 à 5. Regardez le verset 4, s'il vous plaît. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi. Ça commence, cette partie, cette section commence par mais toi. Mes ennemis sont nombreux. Mais toi, ma situation est grave, mais toi, j'ai commis des fautes, mais toi, je ne vois pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais toi. La foi ne nie pas ce qui vient avant le mais toi, c'est-à-dire les péchés et les erreurs. La foi affirme au contraire que Dieu est beaucoup plus grand que toutes les choses qui viennent avant le « mets-toi ». Plusieurs « mets-toi » dans la Bible, toujours aussi salvateur que celui que nous avons dans ce psaume. Dans Genèse 50, verset 20, alors, pas besoin de lire, je vais les dire comme ceci, on peut les écouter comme une belle mélodie qui rappelle la bonté de Dieu. Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité, et c'est Joseph qui parle, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dans Actes 13, versets 29 à 30, « Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Romains 5, versets 7 à 8, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Éphésiens 5, versets 4 à 5, Éphésiens 2, versets 4 à 5, pardon. J'ai pris à partir du verset 3 d'ailleurs. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ah, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Bien souvent, ces deux mots ensemble annoncent une bonne nouvelle. Et dans notre texte, David dit en quelque sorte, « Ça va mal, mais je connais Dieu. » Vous voyez ? Mon couple va mal, mais je connais Dieu. Je subis les conséquences de mes décisions, mais je connais Dieu. Mon cœur m'accuse, mais je connais Dieu. Je ne connais pas encore la suite de l'histoire, mais je connais Dieu. Ok ? Mais alors, qu'est-ce que David connaît de Dieu ? Je veux dire, là ici, dans cette section, il affirme un peu sa foi, mais il affirme sur la base du « mais Dieu », c'est-à-dire ce qu'il connaît de Dieu. Qu'est-ce qu'il sait de Dieu qui lui donne une telle assurance ? Alors, regardez, il utilise trois images. Premièrement, « Tu es mon bouclier ». Et donc, le texte ne dit pas seulement que Dieu est un bouclier quelque part devant David, loin quelque part. Non, l'idée du bouclier ici, c'est une sorte de bouclier autour de lui, une sorte de protection qui l'enveloppe. David est encerclé par ses ennemis, mais ses ennemis ne sont pas les seuls à l'entourer. Dieu l'entoure aussi et il le reconnaît. Tu es mon bouclier. Et donc, est-ce que le bouclier a déjà empêché qu'une flèche soit tirée? Absolument pas. Le bouclier empêche que la flèche nous atteigne. On voit bien dans le psaume que David est déjà blessé. Il est humilié. Il est obligé de fuir devant son fils. Et donc l'idée du bouclier, c'est plutôt que les flèches n'auront pas le dernier mot. Les ennemis peuvent atteindre notre confort, notre réputation, et même, du coup, son trône, mais elles ne peuvent pas nous arracher à la fidélité de Dieu. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà arrivé de penser au passé et de vous dire, mince, comment j'ai fait pour m'en sortir pour me sortir de cette situation? Comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici? Ah, il semble qu'à ce moment-là, la seule réponse qui tienne, c'est la fidélité de Dieu. M'a porté, a été autour de moi comme un bouclier. La deuxième chose que David dit, c'est « Tu es ma gloire ». Et là, c'est très important. J'ai trouvé ça un peu dérisoire. Ironique. Voilà. J'ai oublié le mot que je voulais dire. Un peu ironique de David de dire « Tu es ma gloire ». Rendez-vous compte, c'est un roi déchu qui dit « Tu es ma gloire ». C'est un roi qui a perdu sa couronne, qui dit « Tu es ma gloire ». Il vient de perdre son palais et il dit « Tu es ma gloire ». Il avait connu les chants du peuple, les victoires militaires. Il a battu Goliath, il a battu les Philistins. Mais maintenant, sa réputation est atteinte et son trône est même menacé. Il comprend alors que sa gloire la plus profonde ne tient pas dans sa position. Elle tient dans ce que Dieu est lui-même. Tu es ma gloire. Tellement précieux pour nous aussi de voir ça ici ce matin. Parce que consciemment, et même des fois inconsciemment, on a tendance à chercher notre gloire bien ailleurs. Dans le travail, dans les apparences, dans les accomplissements de nos enfants, dans le mariage qui se passe bien, que tout le monde apprécie, dans les diplômes, et même dans le ministère, un ministère florissant. La tentation est toujours là et présente. De se définir à partir de ces choses-là. Comment va ton fils? Ah, tu parles de Joseph? Écoute, il va super bien. Il vient de réussir son bac avec mention très bien. D'ailleurs, est-ce que tu es au courant qu'il fait 3 sports différents? Il excelle dans ces 3 sports-là, niveau départemental. Presque, là, il va attaquer les nationales ou régionales. Et d'ailleurs, au piano, il est excellent. Et l'implantation, comment ça se passe? Grande occasion, là encore, de s'étaler et de tirer gloire et fierté. Je ne parle pas de cette fierté saine, mais plutôt de ces fiertés desquelles on a tendance à vouloir tirer notre identité. Vous voyez? Et si vous avez l'impression de ne pas être concerné par la question, alors répondez à ceci. Qu'est-ce qui, lorsqu'on égratigne un tout petit peu, vous met hors de vous? La réussite ou le comportement de vos enfants? Votre ministère ou votre service peut-être? Si vous surréagissez lorsqu'une de ces choses est attaquée, c'est sûrement parce que c'est une chose de laquelle vous essayez de tirer votre gloire. Et David estime que toutes ces gloires-là sont fragiles. Vous voyez, l'emploi peut disparaître. Et d'ailleurs, celui qui écrit ça est en train de perdre son emploi. Le corps vieillit. Les enfants ne suivent pas toujours la voie qu'on imagine pour eux. Mais pourtant, si Dieu est notre gloire, alors on peut reconnaître un échec sans conclure que toute notre vie est un échec. Si Dieu est notre gloire, alors on peut perdre une position sans perdre notre identité. Si Dieu est notre gloire, alors on peut recevoir une critique sans pour autant être détruit par cette critique-là. Essayez d'imaginer un peu une belle journée ensoleillée. 10 personnes vous encouragent et une seule personne vous critique. Le soir, de qui vous vous souvenez le plus? Peut-être de la personne qui a critiqué. On répète la phrase en boucle. C'est cette phrase qui nous a dit. On imagine, on essaie de penser à ce que la personne pensait en nous disant cela. On prépare la riposte. Pourquoi? Parce que cette personne tient momentanément notre gloire entre ses mains et au bout de ses lèvres. Mais David dit, Seigneur, tu es ma gloire. Ma valeur ultime ne dépend pas de l'opinion de la foule. Elle dépend du fait que je t'appartiens. Quel plus grand privilège! Troisièmement, David dit, tu relèves ma tête. Très généralement, lorsqu'une personne a honte ou est humiliée, elle baisse la tête. Et d'ailleurs, c'est comme ça que David est sorti de Jérusalem. La tête couverte et sur le c'est peut-être sur le chemin qu'il a composé ce psaume. Sûrement en pensant à Dieu et en se souvenant de comment Dieu est capable de restaurer le pécheur qui se repent. Avant de terminer cette section, il faut réfléchir à une question. Lorsque David dit que Dieu est son bouclier, sa gloire, et que c'est lui qui relève sa tête, est-ce que c'est juste une pensée positive? Il se dit ça pour se rassurer et se donner un peu de courage? Ou alors, il dit ça parce qu'il a fait quelque chose? La réponse, il me semble, c'est que malgré tous les péchés de David que vous pourrez lire dans 2 Samuel, David ne fonde pas sa relation sur Dieu sur la base de ses performances. mais sur la base de la grâce et du pardon irrévocable que Dieu donne à celui qui se repent. Si vous connaissez l'histoire, alors vous savez que David, après avoir péché avec Bathsheba, après avoir tué Uri, David s'est repenti devant Dieu. Et il connaît le Dieu qui pardonne. Il sait comment Dieu traite celui qui s'incline devant lui. Est-ce que ça veut dire que le péché de David n'était pas grave? Absolument pas. D'ailleurs, il faut juste regarder et penser à la situation dans laquelle David se trouve. C'est grave déjà ce qui se passe. Et c'est la conséquence de son péché. Donc, le pardon de Dieu ne veut pas dire que le péché n'est pas grave. Mais il y a une différence fondamentale entre les conséquences du péché et la condamnation du péché. David subit les conséquences de son péché, mais il sait qu'il n'y a plus de condamnation sur sa tête. Avec toute la lumière qu'on a du Nouveau Testament, on sait désormais que, c'est Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pas parce que Jésus ferme les yeux sur le péché, pas parce que Dieu ferme les yeux sur le péché, mais parce qu'il les a pris tout entier, même dans le détail de ce que nous ne savons pas, même dans le détail de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on ignore. Il les a pris tout entier et il les a posés sur son Fils, qui est mort à la croix. C'est une vérité qu'on a besoin de se prêcher, de prêcher à nos propres cœurs régulièrement. Lorsque notre cœur dit « Dieu est contre toi », on peut dire avec certitude « Jésus a porté ma condamnation ». Lorsque notre cœur dit « Tu dois payer encore », on peut répondre « Jésus a tout accompli ». Lorsque le péché nous dit « Cache-toi », on peut répondre « Dieu relève la tête de celui qui revient à lui ». Quelle grâce, quelle grande assurance on peut avoir d'entendre ça. Ça va mal, mais je connais Dieu. Et lorsque cette vérité descend dans le cœur de David, elle transforme complètement sa manière de vivre. Et c'est ce qu'il y a dans les cinq derniers versets. C'est le troisième point. On voit le soutien de Dieu. Regardez un peu le verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond. De la montagne sainte, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Rendez-vous compte, David est en train de fuir Jérusalem. Donc, il est loin de Jérusalem, loin du sanctuaire, loin de la montagne sainte. Et pourtant, il est convaincu qu'en priant, Dieu l'entend depuis sa montagne. Absalom peut avoir pris Jérusalem, mais il n'a pas pris le contrôle de l'histoire. Dieu a toujours le contrôle de l'histoire. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, les gouvernements peuvent voter des lois iniques. Mais ça ne dit absolument pas que Dieu a perdu le contrôle de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. On l'a vu dans le psaume 2 au verset 6. Il a dit que c'est lui qui a installé son ouin. Et c'est une conviction qui aide David à changer de perspective. Vous voyez? Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Verset 5. Il prie. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. David ne dit pas, puisque j'ai participé à mon propre malheur, je n'ai plus le droit de demander de la délivrance. Comme cet ami qui a fait le choix de manger le piment et qui estimait ne plus avoir besoin de, ne pas être légitime pour demander de l'eau. Alors, ici, il n'est pas question de légitimité, mais il est question de Dieu qui accueille même le pécheur. Il demande de l'aide avec audace parce qu'il sait que Dieu n'est pas son ennemi. Peut-être que quelqu'un aussi, ou ce matin aussi, traverse les conséquences d'un mauvais choix. La bonne nouvelle ici, c'est que tu peux quand même prier. Tu peux quand même prier. Et je sais pour ma propre vie que après un péché, ça peut être très difficile de revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est fier.
On se dit, ah oui, mince, j'ai encore fait ça. Et pourtant, Dieu nous appelle et nous attend. Dieu ne supprimera peut-être pas immédiatement les conséquences de notre péché, mais on peut prier. Parce qu'on ne parle pas à un ennemi, mais on parle à notre Père. La deuxième chose qu'on voit au verset 6, « Je me couche et je m'endors. » David dort. Alors, ça a été vraiment assez bouleversant lorsqu'on essaie de penser à tout ça, à se dire, « Ok, le roi, combien de rois sur cette terre sont terrifiés, ou chefs, ou présidents, terrifiés à l'idée de perdre le pouvoir ?» Alors, Cameroun, bon, bah, je pense que je peux le dire sans grande difficulté. Ceux qui connaissent le contexte comprennent. Les rois s'accrochent au pouvoir et stressés à l'idée de perdre ce pouvoir-là. Et ici, David perd le pouvoir par la main de son propre fils. Et il peut dire, je me couche et je m'endors. Son fils veut le tuer, son trône est menacé, ses ennemis sont nombreux et pourtant il dort parce qu'il sait que Dieu, lui, ne dort pas. Okay? Quand je conduis souvent, j'aime beaucoup regarder dans le rétroviseur et puisque je pensais déjà à ce texte-ci, hier en rentrant, on est rentré tard et les enfants dormaient et je regardais dans le rétro, dans la vitre à l'intérieur pour les voir dormir. Et me dire, il faut avoir confiance et être serein pour dormir alors qu'on roule à 130. Et c'est ce que David fait. Je m'endors. Il n'a pas besoin de dormir, c'est reconnaître qu'on n'est pas Dieu. Des fois, on pense qu'on ne doit pas dormir, on doit veiller et aider à Dieu ou même lui rappeler que c'est toi, Dieu, donc tu dois faire ça, etc. Mais Dieu n'a pas besoin encore éveillé pour lui rappeler cela. Et donc, peut-être que nous, on a juste besoin d'écrire ce soir sur une feuille, écrire ce que je peux faire demain, ce que je ne peux pas contrôler, écrire ce que je remets à Dieu cette nuit et puis prier. Troisièmement, David tient bon. On voit ça au verset 7. Je ne crains pas les myriades de gens qui, de toutes parts, se sont mis contre moi. Les ennemis de David n'ont pas disparu, vous voyez. Mais David ne les regarde plus de la même façon. Et donc, la paix que David a désormais, elle ne vient pas du fait que ses ennemis sont partis. Elle vient... parfois, lorsque on arrive à voir Dieu plus grand, je me rappelle un collègue, Jason, on parlait, je ne sais plus exactement de quelle situation, on devait aller au Burkina Faso ensemble. Et je crois que mon visa ne sortait pas. J'avais un problème administratif. Et il a dit cette phrase-là qui a changé ma perspective. Il a dit, on peut quand même faire confiance à Dieu qui a fait le cosmos entier et qui maintient le cosmos dans l'espace sans qu'il y ait besoin de fil pour tenir la terre, etc. Et juste à y penser ça, je me suis dit, ah oui, quand même, Dieu est grand, plus grand que nos problèmes. Et donc, dès qu'on voit Dieu beaucoup plus grand que ce qui nous assaille, ça peut changer notre perspective. La quatrième chose, c'est que David remet la justice à Dieu. Au verset 8, « Tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Alors, ici, vous voyez, il brise les dents des méchants. Donc, je me demandais à quoi ça pouvait renvoyer. En gros, si on brise juste les dents des méchants, ça veut dire que les méchants sont toujours là. Mais leur moyen, leur pouvoir de destruction est enlevé. Dieu est capable d'enlever le pouvoir de destruction du méchant. Je vais terminer en rappelant que ce psaume-ci ne peut que faire allusion, ne peut que tourner nos regards vers Jésus, qui lui aussi, roi, rejeté, trahi, crucifié. Alors David vit le chaos à cause des péchés aussi qu'il a commis. Mais Dieu, mais Jésus n'avait commis absolument aucun péché. David souffrait des conséquences de ses propres erreurs, de ses propres choix. Et Jésus lui a été exposé, mort à la croix pour nos péchés. Alors qu'il n'a fait ni aucun péché. Trois choses qu'on pourrait au moins retenir ce matin. Et tout cela est porté dans les titres. La détresse du roi nous rappelle que malgré nos erreurs, on peut quand même venir à Dieu. La foi du roi nous rappelle que notre plus grande gloire, ce que nous avons de plus précieux, est en Dieu. Et lorsqu'on a une vision plus grande de Dieu, nos problèmes et nos situations difficiles deviennent beaucoup plus petites. Et la troisième, le soutien de Dieu nous rappelle que Dieu ne nous laisse pas tout seul. Il nous accompagne. Il est avec nous. Et même lorsque les conséquences de nos péchés sont encore là, cela ne dit pas que Dieu nous traite comme un ennemi. Bien au contraire, il pardonne, il restaure et il marche avec nous, même dans le feu des épreuves. On va prendre la scène.